écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Une émission que nous avons la chance de faire aujourd'hui en direct du salon Livre Paris, d'où le stimulant brouhaha que vous entendez peut-être. Il se déroule porte de Versailles jusqu'à demain dans une belle liesse qui nous prouve qu'on est encore dans un pays qui aime les livres et les écrivains. Et bien justement, le temps des écrivains, c'est l'émission des écrivains. Chaque semaine, vous savez, l'un d'eux ou deux d'entre eux nous rejoignent le samedi à 17h pour parler de leur dernier livre, certes, mais aussi de leur travail. Et parfois, de belles rencontres s'y font. Et je pense que ce sera le cas aujourd'hui avec deux invités qui célèbrent chacun à leur façon la littérature. D'ailleurs, ils se connaissent déjà un peu, je crois. Bonjour Véronique Ovaldé.
Bonjour.
Et bonjour Mathias Malzieu.
Bonjour.
Je dis Mathias Malzieu ou je dis Dionysos en fait, parce que...
Dionysos, c'est un peu prétentieux quand même.
Ouais, c'est un peu... C'est vous qui avez trouvé le nom d'ailleurs du
Oui,
du groupe,
oui, oui, oui. Je ne me rendais pas bien compte que ce nom, c'était juste emprunté le nom d'un dieu, que c'était peut-être un costume un poil grand. Mais quand on a 19 ans et qu'on découvre la naissance de la tragédie et qu'on se dit « Waouh, moi je vais faire un groupe de rock et ça va s'appeler Dionysos », eh ben, c'est du souffle et de l'élan. C'est pas... Et puis c'est devenu un peu finalement... le prénom du groupe, bizarrement, j'ai pas l'impression qu'on pourrait appeler le groupe autrement. Mais sinon, je continue quand même de me présenter Mathias.
Très bien, on va dire Mathias. Vous connaissez hein, donc Véronique et Mathias, hein, je crois.
Oui, on se connaît. Ouais. On s'est rencontrés une fois sur un spectacle autour de Richard Brautigan, parce que je savais que Mathias aimait énormément Richard Brautigan, et moi j'aime beaucoup, beaucoup aussi Richard Brautigan. Et donc voilà, on a fait un petit quelque chose ensemble à la Maison de la Poésie, et c'était merveilleux.
Et on est qui au salon de Lire en Poche ?
Ouais, de Gradignan, et on a fait une rencontre et c'était très stimulant.
Ouais, c'est super.
Il va en être un petit peu question d'ailleurs de Brautigan, puisqu'il est question d'un Flower Burger et qui vient d'une poésie de Brautigan dédiée presque à Baudelaire.
Ouais, tout à fait. C'est un petit poème de Brautigan où il imaginait que Baudelaire montait un stand de burger et qu'il remplaçait les. La salade par des fleurs.
Ouais.
Et que le poème termine par « Mais qu'est-ce que c'est que ces burgers ?» Et les gens disent « Mais qu'est-ce que c'est que ces burgers ?»
Véronique Ovaldé, vous êtes déjà venue à cette émission. C'était pour un livre jeunesse, comme on dit, « Paloma et le vaste monde », qui est publié chez Actes Sud Junior, co-signé avec Jeanne de Talente. Mais vous écrivez aussi pour les moins jeunes, car hélas, dans la vie, un jour, on devient moins jeune. Encore que, quand je vois Mathias Malzieu en concert, je me dis qu'on peut rester toujours un enfant, c'est ça, Mathias
hein. Ouais, il y a un côté chronos hein, avec le rock'n'roll. Hein. C'est que bon, les os et la chair vieillissent quand même, mais l'esprit reste un peu intact. Et du coup, sur scène, on retrouve dans un moment de scène une forme d'adolescence.
Ça dit vous aussi, Véronique Ovaldé, finalement, l'envie de rester enfant, c'est quelque chose qui compte dans votre travail?
Bah oui, bien sûr, évidemment, l'envie de rester. Enfin, l'envie, je sais pas si c'est l'envie de rester enfant en ce qui me concerne. C'est plutôt une connexion, disons encore très très active avec l'enfance. L'enfant est toujours là en fait en moi, et ça me passionne. Et c'est assez facile de la faire revenir la petite fille avec la hache.
C'est facile. Comment vous faites, vous, pour la faire revenir?
Ah ouais, je sais pas. Je la réactive d'une certaine façon. Je peux réactiver la petite fille de 5 ans, de celle de 8 ans. Je pourrais réactiver l'adolescente ou la jeune femme. Je peux faire tout ça à la fois. J'ai l'impression que j'ai tous ces gens à l'intérieur de moi et des petites pelures comme ça les unes sur les autres.
Il y a une phrase de Georges Bataille que j'aime beaucoup quand on parle d'enfance et de littérature. La littérature, je l'ai lentement voulu montrer. C'est l'enfance, enfin. Retrouver. Alors Véronique Ovaldé, je rappelle que vous êtes la romancière fêtée de Ce que je sais, de Vera Candida, prix Renaud des lycéens, prix du roman France Télévisions 2009, grand prix d'actrice de Elle, de Mon cœur transparent, prix France Culture Télérama. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous publiez un nouveau livre, Personne n'a peur des gens qui sourient, c'est chez Flammarion, et sous ce titre érigé en constat qu'il faudra pour l'héroïne peut-être contester. Nous suivons l'histoire d'une mère, Gloria, qui décide sans crier gare de quitter la Côte d'Azur pour l'Alsace, ses deux filles sous le bras, si je puis dire, dans la voiture, sans explication aucune pour le lecteur, qui ne visualise que l'image d'une précipitation maternelle à sauver, peut-être, sa progéniture. Alors de quoi, nous ne le savons pas. Cette mère au prénom conquérant, Gloria, embarque prestement ses deux filles dans sa voiture, depuis donc la Méditerranée jusqu'à la vieille maison de son enfance perdue dans la forêt. Quelle menace fuit-elle? Eh bien, le récit, peu à peu, va nous donner quelques réponses, parce que ce récit alterne entre la fuite et le retour vers le passé de Gloria, marqué par un certain Giovanangeli, qui l'a élevée à la mort de son père, et puis un certain Santini, l'avocat chargé de l'héritage, et enfin par Samuel, son grand amour, qui n'a pas eu le temps, hélas, de voir naître leur deuxième fille. Alors il y a toujours, comme toujours chez vous, des personnages féminins mystérieux. Moi j'ai un faible pour cette grand-mère shootée au bronzage, morte d'une attaque de frelons, affamée et rendue fou presque par la substance dont elle s'est enduite le corps pour mieux bronzer. Il y a toujours aussi dans le mystère des lieux mystérieux, et puis toujours la fuite, toujours la cavale. Alors sans entrer dans l'intrigue pour le moment, je voudrais savoir, puisqu'on est au Salon du Livre, si vous considérez dans votre travail l'écriture comme une façon de cavaler, une façon de fuir le réel, peut-être pas le fuir, mais en tout cas de s'en échapper.
Alors je pense qu'au début ça devait être ça, quand j'avais 7 ans et j'avais décidé d'être écrivain, de devenir écrivain. Je pense que clairement c'était une décision pour échapper à ce qu'il y avait... Enfin, là où j'étais tombée, vous savez, c'est ce truc terrible de tous les, de beaucoup de gamins qui se disent, mais c'est injuste où je suis arrivée, mais qui sont ces gens, je suis sûre que je suis adoptée et que ce ne sont pas mes vrais parents. Donc voilà, je faisais partie de ces enfants-là, et donc le fait que de se mettre à lire, beaucoup lire et à écrire, à inventer, à tout à coup à pouvoir me libérer aussi de cette imagination encombrante de tous ces petits personnages qui étaient à l'intérieur de moi. Évidemment, c'était sans doute ça, une première fuite, on va dire. Après, c'est devenu autre chose. En fait, l'écriture, c'est, je dirais plutôt un pas de côté. C'est une possibilité. En fait, c'est une tentation et une tentative aussi de voir le monde un tout petit peu différemment.
Et c'est mieux.
C'est mieux que quoi?
Je pense à ça. Il y a un jeune écrivain que j'aime beaucoup, italien, qui s'appelle Paolo Giordano, La solitude d'un homme premier, qui dit toujours: le fait que j'écrive, c'est le symptôme de mon incapacité à participer à la fête. En gros, il dit qu'il écrit parce qu'en fait, la vraie fête de la vie, il n'arrive pas à y participer.
Mais alors ça, c'est drôle, parce que l'image que j'avais pendant très longtemps d'un écrivain, c'était quelqu'un qui était au bord de la piscine. Et qui était, donc ça ressemble un peu à ça.
J'adore cette
qui reste
image
au bord de la piscine et puis regarde les autres en train soit de faire un sublime crawl, soit à moitié de se noyer. Mais voilà, l'écrivain, il est au bord de la piscine et il regarde s'il n'est pas trop chaud, pas trop froid, mais il observe.
Alors Mathias lui aurait sauté dans la piscine.
Non, d'ailleurs, je me suis pas mal retrouvé dans la description sur la solitude que tu fais, sur le plaisir de la solitude. Et notamment ce truc tout bête que tu dis à un moment dans le livre, où « mais tu vas manger tout seul ?» Mais oui, moi j'adore aller manger tout seul. Parce que, et c'est peut-être un truc d'écrivain, parce qu'en force de travailler sur son imagination, c'est comme quelqu'un qui court et qui a ensuite une endorphine de l'effort et qui a un plaisir de l'effort qui se renouvelle. Et le plaisir de la solitude... Et de développer ces histoires, de fabriquer un monde qui rivalise avec la réalité ou qui le distord, qui s'en échappe, comme vous disiez, et ben c'est une petite drogue. C'est un refuge, mais c'est aussi une petite drogue.
C'est étonnant, parce que quand on pense à vous, Mathias Malzieu, on pense aussi, évidemment, aux musiciens, à l'homme de scène. Et c'est vrai que vous êtes peut-être, je crois que c'est Cali qui dit ça, le champion du monde du stage diving. Alors, c'est vrai qu'il faudrait le dire en français, la plongée depuis la scène.
Le lâcher de chanteur dans la foule.
C'est ça. Et vous êtes totalement véhiculé par le public, porté. Parce que la solitude, c'est un peu le contraire de ça. Disons qu'il n'y a pas ce rapport.
Mais il y a un truc un peu de super-héros bizarre. Mmh. C'est-à-dire que j'aime vraiment le temps de la répétition avec le groupe, avec les amplis qui chauffent. J'aime l'adrénaline des gens et du concert, cette intensité folle, cette liberté folle. Et après, j'ai besoin de mon silence et de retourner dans ma cabane de création pour avoir une autre liberté. C'est vraiment des temps où, voilà, quand on met un costume de scène, je mettrais un espèce de cap de super-héros qui n'a d'autre super-pouvoir que d'essayer de s'amuser un peu, mais c'est déjà pas mal par les temps qui courent, et qui a besoin de ces plusieurs temps.
Alors Mathias Malzieu, donc je le disais, auteur, compositeur, chanteur du groupe Dionysos aussi, auteur de nouvelles et de romans, puisque vous menez de front cette double carrière, musicale, littéraire, même triple carrière, parce qu'il y a aussi le cinéma. Après un recueil de nouvelles et un roman autobiographique sur la mort de votre mère, « Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi », publié en 2005, vous avez publié en 2007 « La mécanique du cœur », qui était aussi le titre d'un album de Dionysos et presque celui du film que vous en avez tiré pour le cinéma. C'était un film d'animation, Jack et la mécanique du cœur, shortlisté pour les Oscars, je crois, bravo. Vous avez publié ensuite Journal d'un vampire en pyjama, le journal que vous avez tenu à l'hôpital après avoir appris en novembre 2013 que vous souffriez d'une maladie rare et mortelle, l'aplasie médulaire. Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est un bug du système immunitaire. C'est-à-dire comme si vous vous étiez fait hacker votre système immunitaire et du coup vous auto-détruisez votre moelle osseuse. Et la moelle osseuse, elle fabrique les globules rouges qui nous permettent d'avoir l'oxygène dans le sang, les plaquettes qui nous permettent de coaguler et tous les globules blancs qui nous protègent des infections. Donc en gros, on ne peut plus vivre sans ça. Et on s'auto-détruit tout seul. Donc je me suis sorti de ça avec une expérience qui ressemble un peu à de la magie. J'ai été sauvé par le sang de cordon d'une femme qui a accouché en 99 à Düsseldorf.
Du cordon ombilical, en fait.
Cordon ombilical, ouais. dont les cellules souches ont été conservées dans l'azote liquide à moins 120 degrés pendant 15 ans. Et on m'a transfusé ça. Et après, il a fallu le temps que ça pousse. Quoi. C'était des graines de moelle osseuse. Donc pendant ce temps, j'ai passé 11 semaines dans une chambre stérile. On ne pouvait pas me toucher, sauf les infirmières avec les gants. Et puis ça a repoussé dans mes os. J'ai changé de groupe sanguin. Et j'ai vécu une aventure tout à fait extraordinaire où j'aurais bien sûr préféré faire des livres, des disques, des voyages et des enfants plutôt que de traverser ce trou noir. Mais dans ce trou noir, j'ai été accompagné par des proches et par des soignants extraordinaires.
Vous aviez une très belle phrase d'ailleurs sur le livre que vous avez écrit à partir de cette expérience. Ce livre est le vaisseau spécial que j'ai dû me confectionner pour survivre à ma propre guerre des étoiles. Donc, panne sèche de moelle osseuse. Nouveau livre aujourd'hui, hein, Une sirène à Paris, chez Albin Michel. On y rencontre Gaspard, un sous-doué du deuil amoureux, comme vous l'écrivez. C'est un chanteur aussi, qui cultive les souvenirs des époques qu'il n'a pas connues, et aussi celui de la fille qu'il a quittée, et qu'elle, il a bien connue. Il n'y a pas que les souvenirs à sauver dans ce livre, il y a aussi le fameux Flower Burger, l'extraordinaire péniche héritée de sa grand-mère, dont la coque a caché des résistants pendant la guerre et cache maintenant une salle de concert. Puis on voit dans ce livre Gaspard, triste, qui se promène le long de la Seine. Et la Seine, on a connu ça il y a quelques années, connaît une crue tellement spectaculaire qu'il va tomber sur une sirène, échouée sur les quais, blessée, qu'il ramène chez lui, tant qu'à faire, pourquoi se priver, pour la soigner avant, bien sûr, d'en tomber amoureux, sans savoir, alors il n'a pas assez lu Gaspard, que son chant cristallin peut-être mortel. Alors, c'est un livre bourré de fantaisie. Il y a une scène avec la baignoire face à face, sirène, canard de baignoire, bourré de mythes et de littérature, comme ce chef donc, qui concocte des burgers aux fleurs, donc hommage à Brotigan, on en parlait avec vous, Véronique, et vous, Mathias, qui rendait hommage à Charles Baudelaire. Dans ses poèmes de Brotigan, il y avait aussi Baudelaire qui fumait de l'opium pendant un match de baseball entre les Yankees et les Tigers de Détroit. Qu'est-ce qui vous plaît chez Brotigan, tous les deux ?
Bah c'est, je crois que c'est la transformation de la mélancolie en joie. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de l'émotion. Il n'a pas peur d'être triste. Mais en fait, il transforme ça en un jeu. Et du coup, c'est un vrai alchimiste. La compensation dont on parlait tout à l'heure sur la question de l'écriture, bah lui, il réalise ce tour de magie et souvent avec des bouts de ficelle.
Oui, c'est vrai, c'est très juste et j'ai l'impression que la littérature, c'est aussi beaucoup ça d'ailleurs. C'est que le rire doit toujours affleurer de l'effroi. Et il y a quelque chose comme ça chez Brotigan, chez quelqu'un de très tragique aussi. C'est quand même un homme qui finit par se suicider, Richard Brotigan, c'est un écrivain donc, qui finalement est fini par être dévoré par son désespoir. Mais il a passé sa vie à inventer des choses extraordinaires, des pays entièrement en sucre de pastèque, des choses complètement folles. Et il cette confiance dans la fantaisie, cette confiance, cette foi qu'il avait dans l'invention et dans l'imaginaire, c'est très ressourçant, en fait.
Oui, dans une époque dont on a l'impression qu'elle se shoote plutôt au réel, quoi.
Oui, absolument.
À l'ultra-réel, labellisé par la vérité, le témoignage. C'est un antidote pour vous, justement, ce recours à la fiction
Alors moi j'ai beaucoup de mal avec, vous savez, cette labellisation, cette validation de création artistique qui sont des films ou des livres où il y a écrit en fait d'après une histoire vraie. C'est comme si tout à coup ça donnait une valeur supplémentaire aux choses. Moi
je
vois pas.
C'est une bonne histoire ou c'est pas une bonne histoire.
Voilà,
ça me rappelle la phrase de Vian, tu sais, la phrase de Vian au début de L'écume des jours. où il dit cette histoire est vraie vu que je l'ai inventée de bout en bout.
Ben voilà, c'est à peu près ça. Et donc voilà, il y a des gens comme Mathias ou moi ou notre très cher Richard Brotillane qui faisait plutôt ce pari en fait de des histoires aussi, du plaisir des histoires, de cet appétit qu'on a tous quand même d'histoire, cet appétit des coïncidences, des correspondances mystérieuses.
Puisqu'on est dans une bibliothèque géante, hein, c'est un peu ça, le Salon Livre Paris, il y a un titre ou deux comme ça, immédiatement les auditrices, les auditeurs et ceux qui sont présents, qui sont là dans le public, pourront se précipiter pour acheter un ou deux livres de Brotillane en dehors des vôtres. Quel titre vous conseilleriez?
Moi, je conseillerais « Mémoire sauvée du vent ». Parce que il est très émouvant. Et en même temps, je me souviens, je l'ai lu, je devais avoir 18 ans. 17-18 ans, et j'étais dans le métro et je pleurais de rire. Donc c'est ça qui était magnifique, c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est qu'avec des gens comme Brotillane, c'est un texte éminemment douloureux et éminemment bouleversant, mais en même temps, tu peux, à certaines pages, ne plus retenir tes larmes tellement c'est drôle.
Et vous, Mathias?
J'aurais dit le même, ouais. Mais
très bien, ça fait un livre.
Tant qu'à faire, je vais en dire un deuxième parce que on les adore tous. Je dirais Un privé à Babylone, parce que c'est vraiment aussi un livre où on rit. Et on est dans un plaisir, on prend pas des fous rires, mais on a ce sourire installé sur le plaisir, la joie de la cocasserie. C'est un vrai faux polar avec un personnage qui a jamais de balle dans son revolver, à qui manque toujours une chaussette, et qui se rêve à Babylone avec une assistante extraordinairement sexy, etc. Du coup, que quand les rares fois où il a une affaire à régler, il rate son arrêt sur le métro parce qu'il rêve à Babylone. Donc, il n'est jamais là au bon moment. Et il passe plus de temps à Babylone que dans la réalité. Et ça crée tout un quiproquo. Sa vie devient un quiproquo. Et c'est... Il y a un côté un peu, justement, un peu les Vernon Sullivan de Vian, quoi. Il y a ce côté comme ça, polar. Donc, il y a une mécanique de polar avec une intrigue. Mais en même temps, elle s'auto-démonte au moment avec un jeu et une ironie douce c'est fabuleux quoi. Ça se lit comme un petit bonbon.
Voilà, deux titres de Brotillane. Alors puisqu'on est là au Salon Livre Paris, je voulais parler quand même et avoir votre avis là-dessus. C'est vrai qu'on a toujours tendance à se plaindre sur le marché du livre qui est en berne, c'est vrai, hein, les chiffres le montrent, mais en même temps il y a une étude donc qui vient de sortir mercredi, hein, l'étude bisannuelle du CNL, Centre National du Livre, sur les Français et la lecture. Et on y lit que les Français lisent toujours autant et aimeraient même lire davantage s'ils en avaient le temps. 88% des personnages interrogés se déclarent spontanément lecteurs, contre 84% en 2017. Plus de 9 Français sur 10 ont lu au moins un livre, quel que soit son genre littéraire, au cours des 12 derniers mois. Qu'est-ce que vous pensez finalement de ce signe un petit peu positif dans un monde où, tout à l'heure, on parlait... Voilà, un monde un peu shooté au réel, mais shooté aussi à l'image. Au fond, vous utilisez les mots, les images aussi quand vous faites un film, Mathias Malzieu. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres? Finalement, un livre sur 92% des Français a lu au moins un livre en un an.
Non, c'est troublant parce qu'en fait, c'est contradictoire ce qu'on nous dit là par rapport à ce qu'on nous répète en permanence, qu'il y a... Il y a à la fois trop de livres, trop de livres, c'est dans le sens où il y a trop de livres qui sortent, il y a une surproduction, et en même temps qu'il y a de moins en moins d'exemplaires pour chaque titre qui se vendent. Donc là, j'avoue que je suis un peu perplexe. J'avais l'impression quand même que les gens, cela dit, continuent de lire dans le métro, c'est merveilleux, ouais. Moi qui passe ma vie dans le métro. Les gens lisent en France, les gens lisent à Paris, les gens lisent. Alors vous allez dans plein d'endroits, dans plein d'autres pays, en fait les gens ne lisent plus du tout depuis fort longtemps dans les transports en commun. Donc parfois ça me rend heureuse, et puis j'aime bien regarder ce qu'ils lisent. Vous avez l'impression que vous allez mieux les connaître, ouais, et savoir avoir quelque chose de leur vie, quoi.
Ah oui, parce que c'est l'intimité la plus forte finalement, parce que même un disque, on peut l'écouter en faisant autre chose. Un film, on le regarde, mais la relation qu'on a avec un livre, et là c'est le lecteur qui parle. C'est nous en fait, c'est vraiment complètement notre choix, et il n'y a aucun filtre, on est uniquement en rapport avec le texte, il n'y a rien autour. Donc quand quelqu'un, même je trouve que pour faire des cadeaux, offrir des livres, c'est une façon, ça peut même être une façon pour essayer de draguer un peu, quoi. Parce que c'est un truc de l'intime vraiment d'offrir un livre, je trouve.
Voilà, et puis l'objet livre est parfait d'ailleurs, petit clin d'œil à Umberto Eco. Ça vous plaît un rendez-vous comme ça en temps, on parlait du stage diving. Alors il y a moins de stage diving au salon Livre Paris que sur un concert de rock. Ces grandes célébrations du livre comme le salon Livre Paris en tant qu'auteur, c'est important. Véronique Ouvaldé, vous aimez ça?
Je pense que c'est, alors je sais pas si j'aime ça particulièrement, mais en tout cas je suis ça me rend confiante. C'est ce qu'on disait tout à l'heure à l'instant où parfois quand même il y a un discours dans l'édition, en librairie, un discours quand même qui nous dit oh là là, c'est terrible, les gens lisent de moins en moins.
Les éditeurs aussi.
Voilà, les auteurs sont désespérés. Enfin, tout le monde est. Voilà, il y a quand même des moments où les gens sont tristes. Et puis, imagine que le bout du chemin va pas être franchement joyeux. Et alors là, de voir le monde qu'il y a, de voir cette excitation là qu'il y a dans un lieu de ce genre, bon, je sais pas, moi ça me redonne un peu la pêche quand même.
Ouais, ça me rassure. Moi, j'aime bien quand il y a des livres, je me sens bien. Je sais que par exemple, toute la période où je pouvais pas voyager. En fait, ma petite église d'imagination, c'était d'aller chez Shakespeare et compagnie, parce que j'adore cette librairie, et d'être juste entouré de livres, et même de livres que je ne comprends pas, parce que j'ai pas assez d'anglais, mais des livres avec des couleurs un peu chouettes, de la poésie qui date d'il y a longtemps.
Qui a été un repère d'écrivains, donc il y a plein de fantômes, tous les écrivains de la Beat Generation se donnaient rendez-vous là, donc ils sont encore présents.
Andy Miller aussi, voilà. Anaïs Nin. Donc et j'aime bien, et donc aujourd'hui évidemment, là c'est le petit cocon, Shakespeare et compagnie, là il y en a partout, mais c'est génial de voir des livres partout et plein de gens partout. Il y a une très très belle, un très bel événement en Espagne qui s'appelle le Saint-Jordi-Dé. Je sais pas si vous connaissez ce truc-là.
On offre une rose.
On offre une rose et un livre. Et on a l'impression que c'est, donc, dans les rues de partout, il y a des livres. On a l'impression que c'est, ça doit être un truc, pas vraiment, un peu commercial ou quoi. Et en fait, c'est vraiment comme si Barcelone se transformait en librairie géante, à ciel ouvert. Voilà. C'est extraordinaire. Faudrait le faire à Paris.
C'est un peu ça, quoi. Bon, on parle français, quoi. Voilà, un peu moins catalan qu'à Barcelone. Merci à tous les deux. On va plonger maintenant dans vos livres. On commence par vous, Mathias Malzieu, et par cette sirène à Paris que vous faites apparaître sur les quais de ce livre, de ce nouveau roman publié chez Albin Michel. D'abord, on écoute votre choix musical. Alors, en fait, on va écouter. Alors, vous m'aviez proposé à Johnny Cash.
Ouais.
Mais il y avait une deuxième possibilité que j'ai préféré pour laquelle j'ai préféré opter. On écoute en fait un single du prochain album de Dionysos, Une sirène à Paris. Et en fait, c'est un peu la BO du livre.
Oui, en fait, c'est la chanson qu'écrit Gaspard quand il rencontre la sirène.
Voilà.
Et elle lui répond.
Ola oko lola ola ola lola o. Sirène de salle de bain, domptesse de canard en plastique. Il faudrait bien que tu m'expliques pourquoi je me sens si bien.
Tu es en train de tomber amoureux de moi, comme tous les hommes avant toi qui ont entendu ma voix.
Oh ma petite Lula, si tu savais comment je me suis fait briser l'hiver dernier. Sans plus de joie, les émois et moi, c'est terminé tout ça, je suis immunisé.
Mon cher Gaspard, joli Gaspard, je suis une sirène, 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 ramène-moi avant qu'il ne soit trop tard.
Une sirène à Paris, c'est le choix musical de Mathias Malzieu qui publie Une sirène à Paris en roman chez Albin Michel. C'est Mathias Malzieu l'un des titres en fait du prochain album de Dionysos, dont vous êtes le leader, le meneur, comment on dit, comment on appelle ça, le dieu.
Je chante et j'écris les chansons. mais c'est une vraie famille et une vraie petite équipe de foot depuis 25 ans.
Hein. Ouais. Alors comment ça se passe? Parce qu'en fait, il va y avoir un film de cette sirène à Paris, comme pour Jack et la mécanique du cœur. Donc il y a le roman, il y a l'album tiré ou pas du roman, puis le film. Comment tout ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne
les trois en même temps? Ouais. J'écrivais vraiment les chansons de Gaspard. J'écrivais le livre. Et puis je me suis dit au début, il va reprendre du Johnny Cash, puis je me suis dit pourquoi je lui ferais pas vraiment ses chansons, parce que ça permettrait de l'incarner encore plus, avant même de me dire que j'allais vraiment en faire un album, même pour le livre. Puis je me suis mis à les faire, puis je me suis dit, ça va être le prochain album de Dionysos. Et en même temps, du coup, ça me faisait la musique du film. Ça me faisait vraiment les scores et les thèmes et l'empreinte musicale. Donc j'étais complètement dans 24 heures sur 24 avec la sirène, avec Gaspard, dans le son, la projection d'image et même dans la façon d'écrire le livre. Ça a aussi un impact sur le côté très scénaristique aussi, le fait de le faire en 3 jours. J'aurais peut-être pas fait...
En 3 jours...
C'est-à-dire que ça se passe sur 3 jours,
ouais,
l'histoire.
Oui, voilà, mais pas...
C'est 2 ans et demi de travail, mais ça se
fait en 3 jours.
En 3 jours. Mais ça a eu un impact, je pense que j'aurais peut-être pas fait les mêmes choix si j'écrivais pas le scénario en même temps, et ni les mêmes choix climatiques si j'avais pas fait les chansons en même temps.
Mais qu'est-ce qui vient en premier? C'est d'abord les mots du roman, l'histoire, ouais, mais vous choisissez...
L'histoire, l'envie de raconter une histoire.
D'accord, et toujours donc en même temps...
Pas toujours, là, c'est la première fois que j'écris un scénario en même temps qu'un livre. Les chansons, j'avais déjà fait des chansons qui étaient en relation, mais c'est la première fois que je fais les chansons d'un personnage.
Alors, dans Une sirène à Paris, donc on est en pleine crue, donc ça se passe à Paris, crue spectaculaire en 2016. On rencontre Gaspard, un sous-doué du deuil amoureux, je le disais, qui cultive, alors d'ailleurs contre l'avis de son père en fait, qui cultive les souvenirs des époques qu'il n'a pas connues, en hommage à sa grand-mère. Et aussi en hommage finalement à la fille qui l'a quitté, puisqu'il est triste, Gaspard. Il n'y a pas que des souvenirs à sauver, il y a justement cette péniche extraordinaire, le Flower Burger, donc prise chez Richard Brautigan, on en a parlé tout à l'heure, pour celles et ceux qui n'étaient pas là. Dans la coque du Flower Burger se cache une salle de concert, pleine de surprises. D'ailleurs, il va être question beaucoup de surprises dans ce livre et de surprisiers, on va en parler. Gaspard se promène le long de la Seine et puis tombe sur une sirène échouée sur les quais. Elle est blessée, il la ramène chez lui pour la soigner et puis il va en tomber un petit peu amoureux, sans savoir assez bien finalement que le chant des sirènes peut être mortel. Alors évidemment, il y a le mythe de la sirène, il y a les contes. On pense aussi à Boris Vian, que vous avez cité tout à l'heure, et notamment à L'écume des jours, avec ces machines poétiques que vous inventez. J'aime beaucoup le voiceographe.
Alors ça existe.
Voilà, et ça existe.
Ça existe pour de vrai, c'était vraiment une machine.
Alors qu'est-ce que c'est? Voilà.
Comme une machine de photomaton, en fait, sauf qu'à la place de se faire prendre en photo, on mettait une petite pièce et on pouvait enregistrer un message d'une minute, et il y avait un petit vinyle qui tombait. Alors moi, dans mon histoire, je dis que c'est les résistants qui utilisent ça pour faire des messages secrets, et qu'à leurs heures perdues, ils enregistrent aussi des chansons ou des messages d'amour. Et j'aimais bien l'idée que la grand-mère stocke et gardait tous ces disques, et que des années après, encore, des gens viennent rechercher des lettres ayant appartenu à leurs parents, des choses comme ça, alors que le père, lui, veut un peu faire place neuve.
Alors, vous auriez pu, tout en restant dans l'imaginaire, Mathias Malzieux, faire rencontrer à votre personnage une fille très belle, dans la rue, dans un bar, dans un métro, on parlait du métro. Ouais. Pourquoi aller jusqu'à la sirène? Pourquoi exagérer? Je dis pas ça de façon péjorative, mais voilà, pourquoi pousser le bouchon, puisqu'on est dans l'eau d'ailleurs, aussi loin? Est-ce que c'est seulement parce qu'une sirène, à cause de ses larmes, permet de régler quelques problèmes financiers?
Ça, on peut pas le raconter.
Non.
Non, je pense que c'est tout simplement par désir et par goût. C'est-à-dire que comme un chef cuisinier qui vous ferait un tel dessert ou tel truc, qui va mettre tel ingrédient pour que ça parfume d'une certaine manière. Moi, le fait d'utiliser une sirène, effectivement, c'est très juste ce que vous avez dit avant. Finalement, cette sirène, c'est pas une histoire de sirène. C'est une histoire qui peut nous arriver à tous. Et puis, cette fille un peu trop belle, beaucoup trop belle, donc dangereuse, surtout quand on pense qu'on est
immunisé,
qu'on peut plus tomber amoureux, qu'on est immunisé. Ouais. C'est juste la vraie vie. C'est juste la question du comment on rebondit après un deuil, après un échec, et comment on continue, comment on recommence. Après, c'était ce qui m'intéressait avec la sirène, c'était la dimension comme ça de sucre et de sel absolu, de pouvoir ajouter la dangerosité comme un enjeu comme ça en 3 jours, et de tendre mon intrigue en lui mettant du merveilleux dedans.
Mais jouer avec une figure aussi extrêmement, je veux dire, arpentée, travaillée par des peintres, par des musiciens, par des écrivains, déjà, est-ce qu'il n'y a pas parfois un écueil ou un danger, d'ailleurs, vous parliez de danger, pour l'écrivain, de se frotter à ces mythes-là qui sont polis par les anges, je vais pas dire usés, mais polis, tellement travaillés qu'ils sont durs à réactiver.
Peut-être après, je pense pas, parce que moi, ça me fait un petit peu la même sensation que quand, par exemple, on nous propose de faire des reprises de Ferré ou des choses comme ça. Ben, c'est comme sur la question de prendre un nom tout à l'heure. Le costume est toujours trop grand. Ouais. Donc évidemment, si on se dit ouais, je vais faire comme Homer, t'es mal barré. C'est sûr que tu pars. Ouais,
chez Homer, elles sont moins, j'allais dire, moins attrayantes physiquement que votre sirène. Hein.
Ouais,
elles ont des serres beaucoup plus acérées.
Elles sont un peu plus agressives. mais c'est sûr. Mais en fait, c'est une façon de reprendre et de se rapproprier en fait.
Il y a une dimension, quand j'ai voulu vous réunir pour cette émission, parce que je ne savais pas en fait que vous étiez connu au départ, c'était la dimension de féerie aussi qui m'intéressait chez vous, qui est présente dans cette sirène à Paris et dans tous vos livres, Mathias Malzieu, qui est présente aussi chez vous, Véronique Ovalde, je pense aussi à Vera Candida, avec ses... toujours ce qu'on appelle aussi en Amérique du Sud le réalisme magique, c'est-à-dire pousser un peu loin aussi. Ça, c'est quelque chose qui vous intéresse énormément, Véronique Ovalde. Aller un peu plus loin que le réel ne l'exigerait.
Quand je parlais tout à l'heure, et aller un peu plus loin. Mais alors, cela dit, il y a, par exemple, dans ce roman-ci, dans Personne n'a peur des gens qui sourient, on a quelque chose comme ça qui a l'air beaucoup plus réaliste. Enfin, qui l'est, d'ailleurs. Oui. C'est une histoire plus... Voilà, qui pourrait arriver en effet à n'importe qui, ne rencontre pas de sirène, mais en revanche, il y a des fantômes et des spectres.
Et des lacs évidemment. Très profonds.
Il y a des lacs très profonds, il y a une petite maison au milieu de la forêt, on dirait la petite maison en pain d'épices, des contes. Évidemment, il y a toujours cette possibilité que je me donne, ou qui me plaît en fait, du magique, de l'étrange. Mais même si c'est ténu, c'est là, c'est présent.
Alors j'aimerais, d'ailleurs, vous avez demandé, c'est un cadeau que vous fait Véronique, Mathias, normalement dans cette émission... L'écrivain lit une page de son livre. Là, c'est Véronique Ovalde qui va lire une page ou deux, d'ailleurs, d'Une sirène à Paris de Mathias Malzieu. On vous écoute, merci Véronique Ovalde.
Dans la famille, on ne plaisantait pas avec l'imagination. The poetry of war, disait Sylvia. Échapper, s'échapper, travailler à son rêve jusqu'à le transformer en réalité. Un art de vivre et de résister, même en temps de guerre, surtout en temps de guerre. Une malice, un pas de côté. Une invitation à voir plus encore qu'à regarder. Destruction de l'esprit de sérieux, ardeur poétique. Gaspard avait promis à sa grand-mère qu'il transmettrait cet art de vivre. Depuis sa mort, Gaspard se définissait exclusivement par sa capacité d'émerveillement. Être un rêveur de combat. Vivre en accéléré pour ne pas gâcher la moindre particule de seconde. Démangeaison d'étoiles filantes. Il ressentait tout plus fort que les autres. Il pouvait être l'homme le plus heureux et le plus triste du monde dans la même seconde. Trop était sa juste mesure. Burn in pour éviter le burn-out. Il montait sur scène comme sur un ring, armé de sa guitare et vêtu d'un costume noir. Les fantômes de mes souvenirs sont accoudés au comptoir, ululait-il, hanté par l'esprit des surprisiers. Il convoquait ses fantômes, s'en électrocutait, les invitait à lui passer sur le cœur. Il les incarnait avec une telle intensité qu'il éprouvait de grandes difficultés à retourner dans le monde réel ensuite. Ses concerts étaient à la croisée d'une séance d'hypnose, d'un enterrement au Mexique, du stand-up et d'un goûter de Noël. Quelque chose qui était de l'ordre de la crise de nerfs et de l'explosion de joie. Le tout chauffé à blanc dans une marmite de rock'n'roll remplie de chansons de cow-boy. Mais être surprisier, c'était décider d'être l'Indien. Celui qui va voir l'ailleurs si j'y suis. Celui qui prend le risque de désobéir. Surprendre et se surprendre au point d'accéder au rang de surprisier suprême. Arrêteur de temps.
Merci beaucoup, Véronique Ovalde. Voilà, c'est un extrait de...
Voilà. Ah, il y a plein de choses. Ça me faisait rire en le lisant.
Oui, on vous voyait sourire.
Oui, parce qu'en fait, je l'ai lu, le livre, que j'ai beaucoup aimé, mais j'avais plus ce petit passage-là en tête. Et quand je le lisais, il y a une jubilation. Hein. Alors, c'est un mot qui est très galvaudé, mais il y a une forme de joie quand même à lire tes livres et à lire tout haut.
Alors, est-ce que ce mot de surprisier qui revient souvent, hein, dont vous donnez la définition, Mathias Malzieu, hein, ceux dont l'imagination est si puissante qu'elle peut changer le monde, du moins le leur. On a l'impression, quand on lit ce livre, qu'il s'agit aussi, dans votre posture, hein, de raconteur d'histoire, qu'il s'agit presque de résister à quelque chose, à une pesanteur, une pesanteur du temps, une pesanteur de l'époque, une pesanteur du réel. Il y a l'idée de résistance, d'ailleurs, cette grand-mère qui avait fondé le Flower Burger... Elle abritait des résistants, vous en parliez tout à l'heure.
Tout à fait.
Mais on sent que chez vous, alors où je me trompe, il y a aussi une volonté de résister par les histoires, quitte à exagérer, quitte à aller dans le décor totalement.
Oui, on traverse quand même des temps qui sont pas faciles. Et je crois en fait au pouvoir des histoires et de l'émerveillement. Et comme Véronique le disait tout à l'heure, ça peut aller jusqu'aux sirènes et au purement magique. Le réalisme magique, c'est de mélanger justement le réel avec le magique. Chacun fait son dosage à chaque livre et comme il veut. Mais j'ai l'impression que par les livres, on peut encore se parler. On peut encore mettre de l'huile dans les engrenages. Et je crois à ça de toutes mes forces. Après, moi, je l'ai expérimenté de façon intime quand j'ai eu cet épisode où j'ai dû être en chambre stérile pendant 11 semaines, où le fait de lire et d'écrire a été extraordinairement vital, même si, évidemment, c'est surtout les proches et les médecins qui m'ont guéri. Mais après, il y a toujours un moment où tu pédales seul, où tu es avec ton toi-même, avec ton intériorité. Et dans cette guerre que je subissais, parce que c'était vraiment une auto-guerre, le fait de rester moi-même, de pas devenir un malade, de rester celui qui raconte des histoires, j'ai éprouvé à quel point c'était important. Et c'est pas important que dans le maudit, c'est important aussi dans le joyeux, dans la célébration par moment.
Dans le maudit, dans le mot.
Non, dans le maudit, dans le pas bien, dans le
ouais,
mauvais.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on n'est pas que dans la compensation.
Je deviens lacanien. Le mot dit.
Attrapé.
Voilà.
C'est important dans la célébration des événements joyeux aussi. Mais j'y crois et je pense que effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de l'histoire vraie, sur toutes ces choses-là, sur cette grisaille, parce qu'il y a des vrais problèmes. C'est-à-dire que être intéressé par le merveilleux ne veut absolument pas dire qu'on se coupe du monde. Ça veut dire qu'au contraire, s'il y a quelque chose qui nous convient pas, on va essayer de le transformer, de jouer aux alchimistes, comme on le disait tout à l'heure avec Brötigam. Et ça, c'est pour moi, c'est des maîtres à penser et des maîtres à vivre qui personnellement me donnent de l'élan.
Est-ce qu'il y a aussi il y a le risque quand on adopte cette méthode-là, cette envie-là, d'être taxé d'ailleurs de grand naïf? Est-ce que la naïveté, parlez beaucoup d'arc-en-ciel par exemple dans vos descriptions, des morceaux d'arc-en-ciel, les larmes qui peuvent être des perles, la peau, même si là, je me suis demandé en le lisant, je me suis dit tiens, en fait un adulte peut le lire, un enfant aussi pourrait le lire. Est-ce que cette naïveté là c'est quelque chose que vous revendiquez, qui est importante pour vous?
En fait, moi je la vois comme une intensité, en fait. Je la vois comme une vision. C'est-à-dire que je me dis pas est-ce que c'est naïf ou est-ce que ça l'est pas. J'essaie de me mettre exactement, de m'accorder avec ce que j'ai le plus envie de dire et le plus envie de raconter. Je me dis pas je vais faire un truc un peu naïf, je vais faire un peu une histoire de sirène, un truc. Quand je fais la description du début, effectivement ça m'avait marqué pendant la crue où il arrêtait pas de pleuvoir, qu'il y avait des petits arcs-en-ciel parce qu'il arrêtait pas de faire beau et mauvais en même temps et ça m'avait marqué. Et en fait, ça vient toujours finalement d'un réel, mais que j'aime m'exagérer, transformer un petit peu comme quand je suis sur scène et que j'ai ma pédale de guitare, que je vais appuyer, que ça va transformer le son, qui va se saturer. Et cette saturation, elle amène à des textures de surprise qui, moi, me plaisent. Mais je les vois pas, je les cadre pas en me disant c'est naïf, c'est pas naïf. Peut-être que moi, j'aimerais mieux la définition d'art brut. C'est-à-dire comme les dessins d'enfants ou ceux qui ne savent pas. J'aime me mettre dans cet état un peu de transe où je suis pas dans le calcul. Après, je retravaille beaucoup, 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 beaucoup. Donc, je vais pas vous dire, oui, c'est du premier jet, c'est comme ça, ça tombe comme ça. C'est beaucoup retravaillé. Mais quand même, le bleu de la femme est très important et j'essaie de le conserver au maximum.
Et ça commence par quoi, en fait, un livre de Mathias Malzieu au départ, quand
par
il se construit?
Envie de raconter une histoire.
Ouais. Oui, mais par exemple, la sirène, on en parlait tout à l'heure. Pourquoi la sirène et pas Pégase?
Le vrai truc qui m'a donné envie, c'est justement après une relation un petit peu qui m'avait laissé un petit peu sur le carreau, je me suis retrouvé à faire du paddleboard.
Expliquer pour ceux qui n'en font pas.
C'est un petit surf qui existait avant même qu'il y ait le surf, où on est debout et on a une pagaie et on rame debout et on peut se promener sur les eaux comme ça, on a l'impression de peut marcher sur l'eau au ralenti. Et je faisais un petit peu de ça et ma compagne qui l'est toujours est venue me rejoindre à la nage et elle avait fait un petit chignon, elle avait mis une fleur dans son chignon et j'étais loin, en plus elle a assez peur de l'eau et des vagues, elle aime pas trop, mais là elle était venue me rejoindre jusqu'au paddleboard et j'étais là, mais c'est une sirène
en chantant ou
elle a pas non. chanté, mais elle chante en plus et elle a pas chanté, Mais je l'ai vu arriver, ouais. Je me suis dit, c'est une sirène. Ouais. Et c'est vraiment, c'est le point de départ, c'est le tout début. Oui, avant même que je me dise, je vais en faire un livre.
C'est une forme de vision.
C'est une vision qui déclenche ensuite une envie. Et après, elle s'agglomère avec effectivement la question de la crue, le fait de la cocasserie, de la retrouver et de se dire, ouais, il va lui faire à manger du poisson pané, comment elle va réagir. Les trucs un petit peu de comédie aussi. Ouais. Parce qu'il y a c'est du plaisir de raconter tout ça aussi.
Introduire des petits éléments de discordance.
De s'amuser, le fameux pas de côté dont on parlait tout à l'heure. Et il y a tout ça qui s'agglomère. Et après, on travaille, on déroule. Vous le savez aussi, vous le faites aussi.
L'image du début, c'est comme ça aussi que ça se passe chez vous, Véronique Ovaldé, parce qu'on va parler là de votre nouveau roman. Personne n'a peur des gens qui sourient. Et c'est vrai que ça commence par quelque chose de très fort. L'image d'une femme pressée. Même angoissée, enfin angoissée, je sais pas, pressée, qui doit absolument partir avec ses deux filles maintenant, tout de suite, et qui prépare ses affaires, dont elle met effectivement un certain nombre d'outils, de vêtements, etc., mais aussi un Beretta, un pistolet. Ça commence comme ça. Cette idée d'image fondamentale, matricielle presque. Est-ce que c'est comme ça que débute l'écriture chez vous ?
C'est comme ça qu'en fait, quand tu parlais de ça, Mathias, du visage de ta bien-aimée. Avec cette fleur dans les cheveux au milieu de l'eau. Et en fait, je vois très bien ce que tu veux dire là, parce que c'est quand j'écris, quand je commence à écrire, j'ai très envie de raconter des histoires. J'ai cette espèce de confiance, moi aussi, dans le pouvoir des histoires depuis toujours. Et aussi, ce que j'aime aussi, comme on le disait, ce sont les embardés, ce sont les discordances, les points d'incohérence. Mais j'ai tout d'abord, avant toute chose, une vision en effet. Et là, j'ai vu cette femme seule, avec ses valises, au milieu de sa cuisine, qu'elle allait devenir Pompéi en quelque sorte, parce que elle allait quitter cet endroit. Elle savait qu'elle allait quitter cet endroit. Et il y avait à la fois, elle était pas si angoissée que ça en effet. Mmh. Elle était à la fois, on la sent menacée, mais elle est déterminée puisqu'elle va chercher ses deux gamines à l'école, qui sont pas du tout prévenues qu'elles vont tout quitter, et elle va donc partir très loin de cet appartement où elle habitait avec les filles. Et donc je voyais à la fois donc cette femme très déterminée, et aussi la chance que je lui donnais de, vous savez, la chance de la seconde vie, le truc qui nous a fait tous rêver un petit peu un jour ou l'autre dans nos existences, c'est allez, je lâche tout et puis je recommence tout à zéro ailleurs. Et donc je lui donne cette possibilité là donc je vois ça à ce moment là et je démarre avec cette histoire, et peu à peu je me rends compte de ce que je suis en train de faire.
Puis après, vous essayez de savoir vous pourquoi, en fait.
Oui, pourquoi je vois cette femme, voilà, et pourquoi elle s'en va, et qu'est-ce qui s'est passé, et voilà, je l'accompagne dans ce dévoilement.
On va en parler tout de suite avec vous, Véronique Ovaldé, de Personne n'a peur des gens qui sourient. Mais d'abord, on écoute votre choix musical. Vous avez choisi les Gymnopédies d'Éric Satie. On va écouter la Gymnopédie numéro 1, interprétée par Alice Sarah Ott. Gymnopédie d'Éric Satie, c'était la Gymnopédie numéro 1, interprétée par Alice Sarah Ott. C'est le choix de Véronique Ovaldé. Elle est avec nous et avec Mathias Malzieu. en direct du salon Livre Paris, où ce bruit, ce brouhaha stimulant que vous percevez peut-être voilà, chez vous, si vous n'êtes pas au salon Livre Paris et que vous nous écoutez, non pas en direct, et je salue d'ailleurs le public de cette émission. Pourquoi ce choix musical il en est question hein, dans le livre, Personne n'a peur des gens qui sourient.
Oui, il est question des gymnopédies, de Satie, parce que je fais une petite liste à un moment donné. J'adore les listes, j'adore la poétique des listes, en fait. J'ai une tendance à faire des listes. Et cette liste, c'est comment chasser les idées noires. Et donc, l'une des stratégies de Gloria, de cette femme dont on parlait tout à l'heure, qui est donc cette femme qui va tout quitter, avec ses deux filles, qui va partir parce qu'elles se sont menacées. Et donc, quand elle était jeune fille, quand elle avait 16-17 ans, sa vie n'était pas toute rose, alors elle avait mis au point tout un tas de stratégies et faisait partie de ces stratégies, évidemment, d'écouter les gymnopédies de Satie. Donc c'est pour ça que c'est très important pour moi, ça fait partie des petits repères.
Est-ce que pour vous, Véronique Ovaldé, puisque Mathias en a parlé, alors c'est aussi son métier de faire de la musique, donc d'en écouter, et d'écouter sa musique, parfois, est-ce que écouter de la musique a un intérêt, un lien avec l'activité d'écriture?
Alors oui, bien sûr. Alors à la fois, moi je crois que j'ai besoin de deux choses différentes, soit d'un immense silence, je suis du genre à travailler avec les boules qui est, à rien ne vouloir entendre, et en général je travaille en pleine nuit, donc comme ça je suis sûre, je ne vais pas être trop dérangée. Il y a quand même des heures très ténébreuses, même quand on habite à Paris, entre 4h et 5h du matin. Mais sinon, j'écoute de la musique en boucle. Vous savez, c'est une espèce de transe que ça peut créer, en fait. Donc, je mets toujours le même morceau et je l'écoute en boucle. Alors, je suis incapable d'écouter des chansons françaises, bien entendu, quand j'écris. Mais donc, j'écoute, voilà, des morceaux comme ça.
Alors, on parlait de Dionysos tout à l'heure, pas seulement du groupe Mathias Malzieu, mais du dieu, hein, Dionysos, de la fécondité, de l'ivresse. Les gymnopédies, à l'origine, avant d'être un titre de Satie, c'était des fêtes religieuses qui se tenaient à Sparte, en l'honneur d'Apollon, donc dieu de la lumière, du soleil, de la poésie aussi, de la musique, et en hommage aux guerriers morts, alors pour ceux que ça intéresse, à la bataille des champions, vous irez voir, 546 avant Jésus-Christ, Argos contre Sparte, bref. Est-ce que pour vous, la littérature, Véronique Ovaldé, c'est aussi, au fond, une festivité qui tiendrait de la religion solaire. Finalement, vous parliez de ces heures ténébreuses, mais au fond...
Oui, mais j'aimais bien l'expression tout à l'heure de Mathias quand tu disais célébration. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Pour moi, c'est une célébration, c'est une liturgie, c'est quelque chose comme ça, en fait, la littérature. L'exercice de la littérature, mais aussi la lecture, en fait. Parce que finalement,
On célèbre quoi?
Alors, on célèbre, en fait, quelque chose qui est assez terrible, me semble-t-il. Mais justement, il faut que le rire, encore une fois, affleure. On célèbre, en fait, notre nature misérable, notre nature humaine, c'est-à-dire notre nature périssable, qui est à la fois le fait d'en avoir conscience. Pour moi, c'est vraiment un privilège absolu et en même temps une forme de malédiction. C'est ça qui donne à la fois sens, dignité à nos vies. Donc ça, c'est quelque chose, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est continuellement... ça, je cherche en lisant un livre. Je vais tenter de trouver, en me connectant, si le mot est pas joli, mais en tout cas au soliloque d'un auteur. J'ai l'impression que c'est le meilleur moyen qu'on a de connaître quelqu'un, c'est de lire ce qu'il a écrit. Donc en faisant comme ça, j'ai l'impression que je vais mieux comprendre en fait ce que je fais là, et ça va me donner en tout cas une bonne raison de continuer.
Et célébrer le périssable et pas justement la grandeur de cette du fait que le temps nous est compté.
Voilà. Mais il y a une dignité là-dedans. Seulement, le caractère périssable donne cette dignité et une valeur, évidemment, aux choses. Alors, c'est cette antinomie qui est quand même pas très, très simple à vivre. On vit tous, hein, tous ensemble. Tous ensemble et évidemment de façon isolée. Et donc, je crois que ça correspond à une forme de questionnement existentiel, mais qui se fait avec une recherche de la beauté, en fait.
Alors ce nouveau livre commence, on en a parlé tout à l'heure, par une image très forte, Véronique Ovaldé, celle d'une mère, Gloria, qui dans la précipitation quitte la Côte d'Azur où elle vit avec ses deux filles. Elle quitte d'ailleurs sa maison avec ses deux filles sans explication aucune, d'ailleurs pour les filles comme pour la lectrice et le lecteur. Ça ressemble à une fuite. On connaît la destination, l'Alsace et cette petite maison d'enfance hein, perdue dans la forêt. Est-ce que c'est la maison qui est perdue dans la forêt ou l'enfance perdue dans la forêt? On ne le sait pas encore.
Décidément.
Voilà, cette mère porte un prénom conquérant, Gloria, mais elle semble fuir. On ne sait rien sur cette fuite. On va le savoir par la construction en fait de ce livre, c'est-à-dire que un chapitre est consacré à ce temps de la fuite et de l'arrivée dans cette maison. Et le chapitre suivant est marqué par un flashback, en fait, dans la vie de Gloria, où on retrouve un certain nombre de personnages d'hommes. Giovanangeli, sur la question de la Corse, voilà, qu'il a élevé à la mort de son père. Santini, l'avocat chargé de son héritage. Et Samuel, son grand amour, qui n'a pas eu le temps de voir naître leur deuxième fille. On comprendra pourquoi. Il y a comme toujours chez vous des personnages féminins mystérieux, troubles, des lieux aussi mystérieux, parce que c'est vrai que s'il ne s'agit pas d'une île, comme dans nombre de vos romans, finalement, cette petite maison,
c'est un peu une île,
dans une forêt, dans une eau, dans un océan d'arbres. Mais on a l'impression toujours que vous avez besoin, je me souviens que dans ce que je sais de Vera Candida, il s'agissait aussi de fuir l'île de Vatapuna. Paloma, dans Des vies d'oiseaux aussi, fuyait la demeure familiale. Dans La Grâce des brigands, il y avait aussi une fuite hein, de Maria Cristina qui gagnait la Californie. On a l'impression que vous avez toujours besoin du motif de la femme qui fuit, quoi.
La fuite, c'est le grand motif féminin par excellence. C'est quand même les femmes depuis je ne sais combien de millénaires et sur toute cette planète, le principe c'est quand même de les enfermer dans un périmètre extrêmement précis. Donc il faut tenter évidemment de sortir de ce périmètre, et le franchissement des frontières il me semble vraiment le thème absolu de la féminité.
C'est drôle parce que ça mime aussi l'acte d'écrire, parce que s'il faut à un moment franchir justement le périmètre, fuir, vous parliez de ces heures ténébreuses aussi de l'écriture. Au fond, si on compare un roman à une fusée, on a besoin du lanceur de cette fusée. Et le lanceur, pour vous, c'est le motif de cette fuite, de ce grand départ.
Je pense pas au moment où je l'écris. Je me suis rendu compte, évidemment, au fur et à mesure de mes publications, que je creusais mon petit sillon et que ça parlait de cette affaire de fuite. Et je me suis dit, est-ce que c'est personnel? Alors oui, bien sûr, c'est personnel. C'est quelque chose qui me tient à cœur.
Depuis le temps, vous êtes penchée sur ça.
Oui, je me suis penchée un petit peu sur la question. Je ne travaille pas complètement aveuglément, mais je le pense de façon aussi plus vaste et moins privée, presque plus politique. Je me dis, c'est vraiment un motif récurrent. C'est normal, finalement, que ça nous importe, que ça nous intéresse, cette histoire de fuir, et de fuir de l'endroit clos, de l'île où on avait été enfermé.
Nous, c'est nous les femmes.
Nous, c'est nous surtout les femmes, oui.
Donc il y a une posture féministe affirmée.
Oui, mais
que les femmes quittent l'île.
Je ne sais pas si c'est exactement pour ça, mais en tout cas, je m'interroge, je me pose beaucoup de questions sur ce motif-là, et surtout, je me dis qu'il y a un vrai devoir, en effet. Tu parlais tout à l'heure de désobéissance, je pense qu'il y a une nécessité de désobéir. C'est Mathias. C'est pas vous, Christophe.
Voilà. Oui, parce que finalement, il y a aussi chez vous, Mathias Malzieu, l'envie de fuir, mais ce sont des personnages masculins qui fuient aussi. Ils ont le droit de fuir aussi, les personnages masculins.
Oui. Je comprends la question sur le côté féminin de la fuite, mais ça doit être mon côté féminin qui s'exprime.
C'est ça.
Parce que j'ai beaucoup aussi, j'ai aimé cette phrase là, le recours aux forêts. C'est vrai que par exemple, la sirène, je suis allé finir dans une cabane dans un arbre à 12 mètres de haut pendant 15 jours.
Voilà, très bien pour les sirènes. Parce que les sirènes étaient des oiseaux, hein, vous savez, dans l'Antiquité. C'était pas du tout des créatures aquatiques, donc c'était parfait.
Voilà. Dans un autre livre qui s'appelle Métamorphose en bord de ciel, j'ai une sirène de ciel.
Voilà. Magnifique. Alors justement, on parlait de votre côté féminin, vous allez encore plus le travailler, Mathias Malzieu, parce que vous allez prendre la voix, comme elle l'a fait tout à l'heure, de Véronique Ovaldé, puisque c'est
avec
vous
joie
qui allez nous lire un passage de Personne n'a peur des gens qui sourient.
Chapitre 5. Elles sont enfin arrivées à la maison de Kesserheim. Gloria a garé la voiture sous les sapins. Même si on était en juin, la nuit était déjà tombée. Loulou dormait et transpirait,
son chaton bicolore lui servant d'oreiller. Gloria a grimacé en voyant la peluche sous la joue de sa fille. Elle lavait les jouets, les draps et les vêtements une première fois avant d'en faire usage. Elle craignait les retardateurs de flammes bromées, les phtalates, les formaldéhydes et les colorants azoïques. Merci beaucoup pour ça. Elle n'avait pas vécu une bonne partie de sa vie auprès de tonton Gio sans avoir conçu une méfiance légitime face à toutes les saloperies dont on bourre les tissus, les meubles et la nourriture. Il n'y a rien de plus contagieux que la méfiance. C'est un redoutable venin. En conséquence, elle ne buvait ni ne fumait plus. Elle vivait dans la terreur de perdre ses filles ou de les laisser seules pour toujours. Elle essayait malgré tout de ne pas brimer la tonalité de leurs élans, même si elle frissonnait en les voyant manger des cochonneries sucrées qu'elle avait rapportées à la maison et dont l'origine était plus que douteuse, même si elle tremblait à l'idée qu'un chauffard ou un vieillard cataracté fauchât l'une ou l'autre. Le monde, et pour cause, lui semblait plus un endroit sûr depuis fort longtemps. Stella avait boudé tout le long du chemin. « Tu fais la gueule ?»« Non, je suis fatiguée. » Il fallait croire que c'était vrai. Elle ronflottait maintenant sur la banquette arrière, totalement immobile, dans une position si inconfortable qu'on eût pu la croire morte, à part ce léger ronflement. Elle avait le visage abandonné, sérieux, son ancien visage de petite fille. Il disparaîtrait bientôt, même quand elle dormirait. Ses globes oculaires tressaillaient par instants derrière ses paupières. Gloria serait bien restée là, à regarder dans le rétroviseur ses filles dormir, planquées toutes trois dans leur abri de tôle, de plastique et de moquette. Peut-être était-elle un peu inquiète aussi de ce qu'elle allait trouver dans la maison et différerait-elle le moment d'y pénétrer. Elle avait allumé la loupiote du plafond, elle observait Stella, dans son état intermédiaire, plus une enfant et pas une femme, ou les deux à la fois. La possibilité des deux. Gloria, dans la voiture sous les sapins, entendait l'obscurité du dehors.
Merci beaucoup, Mathias Malzieu. Merci. Voilà un extrait. Qu'est-ce que ça fait d'entendre comme ça, la voix d'un autre, la voix d'un chanteur, d'un écrivain?
Et j'adore comment Mathias lit avec les mains aussi. Tu lis et tu. Voilà, il se passe quelque chose physiquement.
Il est bientôt le temps de nous quitter. Je voudrais juste vous poser une dernière question, Véronique Ovaldé. Personne n'a peur des gens qui sourient. Alors, on comprendra évidemment le titre en lisant ce livre. Est-ce que finalement, vous faites un rapport particulier entre le titre d'un roman et le programme que ce titre est censé développer ou va finalement peut-être infléchir, en fait?
Ah, finalement, ça se passe dans l'autre sens. C'est-à-dire, j'écris le roman, il n'a pas de titre, et il va se passer, à la fin, je vais relire, en fait, le texte, totalement, après l'avoir donné à l'éditeur, je le donne avec, comme ça, il n'a pas de titre, et je vais, là, me dire, mais qu'est-ce que j'ai voulu vraiment, c'est un peu bizarre de dire ça, mais qu'est-ce que j'ai voulu écrire là, qu'est-ce que j'ai voulu passer, en fait, comme petite frontière, justement. Et c'est là où je me dis, mais, c'est quoi le fil à plomb de ce livre? Et je crois que le fil à plomb de ce livre, c'était quelque chose qui parlait en effet du sourire, de la méfiance et un peu de paranoïa.
Oui, oui.
Et puis voilà, avec une sorte de, un peu de phrase un peu ironique aussi, voilà. Personne n'a peur des gens qui sourient, n'est-ce pas?
Exactement, oui, bien sûr. On vous croit sur parole, Véronique Ovaldé. Dernière question, Mathias Malzieu. Un roman, c'est une chanson ou un roman, c'est un album de chansons?
Un roman, c'est un album de chansons. C'est un marathon. Ça s'installe dans le temps long. Une chanson, ce serait une nouvelle courte ou un poème.
Merci beaucoup. Merci à tous beaucoup, les deux. Abdel. Véronique Ovaldé, Mathias Malzieu. Je rappelle le titre de vos livres. Une sirène à Paris, Mathias Malzieu, c'est chez Albin Michel. Personne n'a peur qui sourit, le nouveau roman de Véronique Ovaldé, chez Flammarion. Merci encore.
Merci beaucoup.
Le temps des écrivains était en direct du Salon du Livre Paris. Merci pour vos applaudissements. Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation, Élise Leu à la technique, chargée de production Rémi Gouriou et Martin Guénard. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook, Twitter, podcaster à l'infini cette émission sur franceculture.fr avec Véronique Ovaldé et Mathias Malzieu.